Une voiture impliquée dans l'accident qui a coûté la vie à une jeune femme à Canala hier avait été volée le matin même au Mont d'Or sur les parkings des navettes maritimes. Son conducteur avait pris la fuite, il est toujours recherché. C'est le maire du Mont d'Or, Eddy Lecourieux, qui était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il est largement revenu sur la situation dramatique que traverse sa commune et la population mondorienne depuis le mois de mai. Plus que quelques heures pour profiter du salon des collectionneurs, des passionnés qui sont à l'honneur à la mairie de Nouméa. Dans le Pacifique, des hydrocarbures détectés au large des Samoa où un navire néo-zélandais a fait naufrage la semaine dernière. Le sport en rugby, retour gagnant pour Antoine Dupont sous les couleurs de Toulouse. Son club gagne contre Clermont avec 3 essais du médaillé olympique et 1 essai de Peato Mauvaka. Et puis le volley en Calédonie qui tente de prendre la balle au rebond après les émeutes avec un nouveau tournoi organisé pour les équipes du Sud à Païta. Bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. L'homme qui circulait dans la voiture impliquée hier dans un accident de la route ayant coûté la vie à une jeune femme à Canala était donc au volant d'un véhicule volé, une voiture volée le matin même à Boulari au Mont d'Or, Léo Fichou.
En effet, on vous le disait ce matin, l'information a été confirmée. Il s'agit d'un véhicule de société qui avait été volé hier matin même sur le parking des navettes maritimes du Mont d'Or, servant à contourner la route de Saint-Louis. Une plainte avait été déposée par son propriétaire. Le conducteur de ce véhicule volé est donc toujours activement recherché par les gendarmes. On rappelle que cette voiture est entrée en collision avec un autre véhicule à la sortie de la tribu de Mia à Canala hier après-midi. Les faits se sont déroulés vers 14h40. Dans le second véhicule se trouvait une jeune femme qui a trouvé la mort à la suite de cet accident. Le conducteur avait pris la fuite à pied après le drame, laissant la victime et les deux voitures sur place. La jeune femme était âgée d'une 20aine d'années. Il s'agit donc du 19e décès survenu à la suite d'un accident de la route en Calédonie depuis le début de l'année.
Eddy Lecourieux s'exprime assez rarement dans les médias. Mais vendredi, le maire du Mont d'Or était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence et il a détaillé la situation de sa commune depuis le 13 mai, Léo.
Il y a eu des exactions au Mont d'Or et les dégâts sont chiffrés à quelques 150 millions. Mais le vrai problème de la commune, c'est bien sûr le blocage à la hauteur de la tribu de Saint-Louis et une situation d'insécurité qui a interdit la circulation sur la RP1. Avec une commune littéralement coupée en deux, le maire parle d'un sentiment d'abandon.
On ne peut pas dire qu'on a été abandonné, parce que ce n'est pas vrai. On n'a pas été abandonné, je pense que tout le monde a fait ce qu'il a pu. Mais en même temps, on s'est senti vraiment seul. On s'est senti, je ne sais pas comment vous dire. Alors c'est vrai qu'il y avait de la sécurité, mais comment on peut imaginer qu'un espace en France soit coupé de la réalité, coupé du monde pendant 5 mois ? C'est aujourd'hui, même quand je vous parle, je me dis, mais comment on peut avaler ça? Comment on peut tenir? Quand on vous dit, bon, monsieur le maire, on va traiter là tout un peu, là, mais Saint-Louis, ça sera en dernier, parce que là, il y a vraiment un gros travail, en dernier, ok? Moi, je me dis, ben écoutez, on va en dernier, puisqu'on a l'habitude d'être les derniers. Mais hein. C'est 11 000, 12 000 personnes, de notre côté, c'est 2 à 3 000 personnes de Yaté. Imaginez, vous bloquiez Bouloupari, Bouraille, Saraméa, Farino, La Foy, c'est ce qui représente 12 000 personnes, vous imaginez? Ben non, le Mont d'Or, c'est devenu une habitude. Et là, quand ça ne va pas, ben, qu'est-ce que fait le maire? Voilà. Ok, moi, je prends ma part, c'est moi le maire. Mais je trouve quand même pas admissible qu'il n'y ait pas plus de réactions.
Eddy Lecourieux rappelle qu'il a écrit au président de la République pour lui demander que l'État s'engage à financer une route pour éviter ce blocage. Il nous faut un ouvrage supplémentaire et il y en a un dans les cartons, rappelle le maire du Mont d'Or.
Il y avait dans les projets de 1980 et plus, là, quand il y avait le projet du site du Sud, il y avait une voie rapide qui passait, d'ailleurs on la voit, qui passe par Magenta, qui passe le long de la mangrove à Boulari et qui devait aller jusqu'à Progny-Ressources. Voilà, cette route, elle existe sur les plans en tous les cas, donc c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on vient nous faire dire que c'est une route de contournement de Saint-Louis. Non, c'est une route grande vitesse pour développer le Sud, qui, je vous le rappelle, a un potentiel énorme en termes de mines, mais aussi en termes de biodiversité. J'étais pas convaincu à l'origine parce que j'étais rentré dans ce contexte financier où on nous expliquait que 30 à 60 milliards, d'ailleurs on ne sait toujours pas le coût. Les études viennent de nouveau d'être lancées, des études complémentaires, puisque à l'époque, Calédonie Ensemble, avec son président, avait lancé des études, mais j'ai l'impression qu'elles avaient été plus lancées pour une campagne électorale plutôt qu'un aboutissement. Et aujourd'hui, ben peut-être je crois qu'il a fallu ce temps pour que tout le monde comprenne. Mais enfin, aujourd'hui, je ne comprends pas que l'État puisse nous envoyer balader, quoi. Je ne comprends pas parce qu'on nous a bloqué 5 mois, c'est l'échec total.
Lancer la construction de cette route, ce serait un grand chantier, souligne le maire du Mont-d'Or, et ce serait un espoir pour la population à qui il faudra redonner confiance. Eddy Le Courrieux souligne que depuis 5 mois, beaucoup de Mont-d'Oriens ont quitté la commune en raison de ces problèmes de circulation. Depuis le début de la semaine, l'État a mis en place un dispositif de sécurité sur la RP1 et Eddy Le Courrieux évoque un projet d'aménagement de la route qui traverse Saint-Louis.
Je crois que le haut commissaire a des idées sur le sujet. D'ailleurs, je vais en profiter pour le remercier, mais très chaleureusement, lui et les forces de gendarmerie ainsi que le procureur de la République. Moi, je vais vous dire, ils ont été à nos côtés tout le temps. Tout le temps, j'ai eu le haut commissaire. Je sais qu'il a été décrié hein, parce que chacun voulait qu'il rentre massivement, violemment, etc. dans Saint-Louis. Mais néanmoins, cette Calédonie démocratique, républicaine et démocratique, elle a des lois. Et je suis quand même content de savoir qu'on n'a pas succombé, parce que je crois que les Calédoniens de l'autre bord auraient pu prendre les armes, je pense. Et je les félicite d'ailleurs, parce que je crois que tout un chacun avait envie d'en découdre, avec simplement pour que ça s'arrête, cette violence, cette peur, etc. Mais le haut-commissaire, il a fait ce qu'il a dit. Ça a pris le temps. Et aujourd'hui, il est en train de travailler sur une solution de traversée de Saint-Louis, de choses qui pourraient être acceptées par tous.
Pour l'instant, le dispositif de sécurité mis en place par la gendarmerie fonctionne correctement. Et si ça se passe bien, les horaires pourraient être élargis. Ils ont déjà été élargis ces derniers jours. Le maire du Mont-d'Or qui s'est aussi exprimé sur le climat général depuis le 13 mai. Et il s'est dit persuadé que les coupables devront rendre des comptes.
Moi, on me garantit que la justice va passer. Je crois que la justice française est lente, mais elle passera, parce que c'est pas admissible. On peut pas aller faire du mal aux gens, on peut pas aller brûler des biens, on peut pas aller bousculer, frapper, on peut pas faire ça dans une société, mais quelle qu'elle soit, que ce soit Kanaki indépendante ou que ce soit la France, on peut pas faire ça. Je crois que ça a été un peu un barreau d'honneur. Là, je crois que ces derniers temps, les gens ont voulu montrer que c'était le dernier, il fallait là, le dernier round, il fallait secouer la Calédonie, il fallait demander, c'était un coup d'État, une prise de possession par les armes. Ben voilà, ça n'a pas eu lieu. Maintenant, il faut revenir à quelque chose de plus démocratique et puis il faut revenir autour de la table. Mais on ne peut pas considérer que c'est comme ça, c'est normal, un pays. Moi, je ne sais pas ce qu'on va débattre à l'ONU hein, quand on va à l'ONU. Comment on explique ça, là? Je ne vois pas comment on peut expliquer ça. Après qu'on ait eu 30 années avec des dispositifs qui ont été mis en place, le partage de pouvoir, de responsabilité, pourquoi on a fait tout ça si au bout de 30 ans, on dit on prend les armes et puis on casse tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que personne n'est prêt à accepter ça.
Interrogé par ailleurs sur les barrages des voisins vigilants, Eddy Le Courrieux salue le rôle qui a été le leur et il ne souhaite pas les lever si la population ne le souhaite pas. Il a enfin été interrogé sur la situation financière de sa commune.
Nous, on a perdu sur ce budget 800 millions déjà, sur un budget de à peu près 6 milliards. Ça va être encore plus l'année prochaine, 25 emplois pas renouvelés, 21 peut-être l'année prochaine. Aujourd'hui, on sait jusqu'au 31 décembre, on peut payer les salaires, on peut payer nos dettes, nos charges, mais après, on ne sait pas. Personne ne sait en Calédonie. On parle déjà de diminution de salaire pour les fonctionnaires, on parle de diminution du point, on parle de tout un tas de choses. Donc si on en parle, c'est qu'on sent que voilà, la faillite n'est pas loin, l'État est là pour aider à reconstruire les écoles ou les bâtiments qui auront été détruits, ben, tant mieux, parce que je pense que la ville de Païta, par exemple, a besoin de son école ou de deux écoles, il faut l'aider. Mais pas à 80 ou à 70%, il n'y a pas un rond, donc c'est soit 100%, soit rien du tout. Une partie des assurances, mais là c'est complexe. On est en faillite, quoi, pour l'instant, quasi, même si on a réussi à avoir encore une ligne de trésorerie, une avance de 800 millions, si on a réussi à avoir un emprunt de 200 millions, mais là on sait qu'on est au bout du bout, quoi. Nous aussi, l'année prochaine, on sera certainement obligé de taper dans la masse salariale.
Eddy Le Courrieux qui rappelle que les barges ont coûté 100 millions à la mairie.
Une interview du maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux, qui sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc. En bref, les navettes maritimes entre Nouméa et le Mont-d'Or Sud risquent d'être perturbées cet après-midi. En cause, une forte houle constatée au wharf du Vallon d'Or, avec des rafales de vent atteignant les 30 nœuds. Le service pourrait donc être interrompu en cas de météo défavorable.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont-d'Or, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, le 24e Salon des collectionneurs fermera ses portes ce soir après 3 journées qui ont comblé les organisateurs autant que les visiteurs. Pour ceux qui n'ont pas encore pu s'y rendre, vous découvrirez sur place une collection de mobilettes et de cyclomoteurs, des collections de Pokémon et autres figurines fantastiques, sans oublier les traditionnels timbres, livres, disques, matériel militaire, coquillages, maquettes et une foule d'objets d'antan qui donneront de belles émotions dans le cœur des nostalgiques autant que pour ces passionnés, fiers d'avoir montré leur collection depuis vendredi.
Je m'appelle Gary William, je collectionne principalement les coquillages dans les Niger et Rostrets de Calédonie. Ce matin, ça démarre aussi fort, il y a beaucoup de monde, donc c'est bien, tout le monde est content.
Qu'est-ce qui a le plus marché sur votre table?
Pour moi, c'est les coquillages et puis un peu d'objets de brocante, des pièces de monnaie en argent, voilà, des billets de banque anciens de Calédonie. Puis des moulins à café, les moulins à poivre, ça a bien marché aussi.
Gérald, de Mob Passion. Ah, magnifique. Même, je dirais, très émouvant parce que j'ai revu pas mal de copains d'enfance qui ont vécu cette époque des mobilettes et qui sont venus me voir et tous les souvenirs sont revenus, hein, l'époque des années 80. Donc ça, c'est fabuleux.
Jacques Esposito, les pièces de monnaie et les objets liés aux marques d'alcool et de tabac. On est content de l'affluence. On a beaucoup de monde qui sont venus nous rendre visite. Pas mal de personnes intéressées, notamment par les anciennes marques d'alcool. Globalement, très positif. Les visiteurs étaient contents de retrouver les verres qu'ils pouvaient utiliser pendant l'apéritif.
Des propos recueillis par Kéline Daboicou. Le salon des collectionneurs en partenariat avec RRB refermera ses portes à 18h ce soir. Direction la province nord avec le beau succès de la fête de Pointe-Boute. Le public est venu nombreux ce samedi sur l'ancien hippodrome de la commune à l'occasion de la 10e édition de ce rendez-vous. Près de 80 stands avaient pris leur quartier sur le site. Yann Peraldi, le maire de Pointe-Boute.
Alors un bilan très positif. Alors une fête qui s'est donc achevée avec l'activité phare de rodéo. Tous des retours positifs.
Une estimation concernant les visiteurs sur le site pour la journée?
Alors on dira entre 3500 et 4000 avec le pic de fréquentation. Quoique il nous semblerait que au moment du rodéo, on ait eu moins de monde que l'année dernière. Tout au moins au rodéo.
Yann Peraldi, le maire de Pointe-Boute. Il s'agissait donc de la 10e édition de la fête agricole de la commune. En bref, sur la côte ouest, ce dimanche à Farino, le marché de Mamie animait, comme tous les deuxièmes dimanches du mois, l'esplanade de la mairie. Et puis un rendez-vous musical à venir avec les choristes du groupe Les Alizés ce soir. Un hommage à Gabriel Fauré qui se déroulera en l'église du Vœu à partir de 18h. Pour les amateurs d'astronomie, un rendez-vous céleste à ne pas manquer. Depuis plusieurs jours, la comète Tuchichan Atlas est plus nettement visible et ce sera encore le cas dans la semaine qui vient. Dans notre hémisphère, la comète, parfois appelée comète du siècle, pourrait donc être aperçue en Calédonie. Écoutez les précisions de Lionel Sabot, membre de l'Association calédonienne d'astronomie.
Il faut faire très attention avec ces notions de comète du siècle. C'est des choses qui sont bien pratiques pour attirer qui le lecteur, qui l'auditeur, qui le téléspectateur. Je comprends bien ce que veut dire la notion de comète du siècle. En tout cas, si ça veut dire que c'est une comète qu'on verra dans le ciel, vraisemblablement c'est une comète que l'on verra dans les jours qui viennent dans le ciel. Alors c'est une comète qu'on voyait déjà il y a quelques jours, qui a été aperçue en Calédonie par plusieurs membres de l'Association calédonienne d'astronomie, mais elle était visible très tôt le matin. Maintenant, ça devient un peu plus facile pour le commun des mortels d'observer cette comète, puisque c'est le soir après le coucher du soleil. J'ai fait une petite simulation sur mon ordinateur à l'instant avant de vous répondre pour voir un petit peu où elle était placée en fonction des jours. Alors elle est clairement à l'horizon ouest, il faut regarder en direction du coucher du soleil. La problématique, c'est que dans les jours qui viennent, c'est une comète qui sera très basse sur l'horizon, donc il va falloir avoir un horizon ouest très dégagée pour essayer de l'apercevoir. Elle sera un peu plus haute à partir de jeudi prochain, mais sera-t-elle visible à l'œil nu? Il faut l'espérer parce que c'est un joli spectacle. Peut-être s'équiper d'une petite paire de jumelles pour pouvoir l'observer après le coucher du soleil. Donc, au coucher du soleil actuellement, vous voyez une étoile qui brille très fortement. Alors, c'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. La comète se situera plutôt sur la droite de Vénus quand on regarde le ciel. C'est un petit jeu qui va intéresser les astronomes amateurs et puis peut-être aussi tout simplement les Calédoniens d'essayer de trouver cette comète dans le ciel du soir.
Lionel Sabot, membre de l'Association calédonienne d'astronomie, la comète Tuchichan Atlas qui tient son nom des deux premiers sites astronomiques l'ayant observé, le premier en Chine en 2023, le deuxième en Afrique du Sud. Midi passé de 15 minutes, une page de publicité avant de voir l'actualité nationale et dans le monde et notamment Emmanuel Macron qui exhorte le Hezbollah libanais à cesser les frappes sur Israël. À tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24h sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Cherchez un véhicule d'occasion au meilleur prix, entretenu, révisé, garanti. Au parking Birakem, en ce moment, 50 véhicules d'occasion sont à moins de 1 million. Alors c'est le moment d'en profiter. 50 véhicules seulement, à moins de 1 million de francs. Rendez-vous au parking Birakem, au 4e kilomètre. Nous avons certainement votre future voiture. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Mickaël Juneski.
Dans le Pacifique, à Apia, les autorités samoanes ont annoncé que d'importantes quantités de carburant s'échappent des réservoirs du Manawanui, ce navire hydrographique de la marine néo-zélandaise qui a pris feu et coulé il y a une semaine après avoir heurté le récif qu'il analysait au large de l'île d'Upolu. Les détails avec notre correspondant régional Jean-Pierre Zajac.
D'après la commission samoane des pollutions marines, plus de 200 000 litres de carburant se sont déjà échappés des réservoirs du Manawanui, qui gît maintenant par 35 mètres de fond. Le récif qu'il analysait au moment de son naufrage a quant à lui souffert et des animaux marins tels que tortues ont déjà succombé après avoir été emprisonnés dans la nappe de mazout qui s'est formée à la verticale de l'épave. Des plongeurs de la marine kiwi ont confirmé quant à eux que du diesel s'échappe des trois déchirures que la collision du navire a causées au niveau de ses réservoirs. Des opérations de pompage vont maintenant avoir lieu afin de vider les cuves éventrées avant que le reste de leur contenu ne s'en échappe complètement. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À l'actualité à l'international, au Proche-Orient, un nouveau casque bleu blessé dans le sud du Liban, le cinquième en deux jours, alors que des échanges de tirs se poursuivent entre Israël et le Hezbollah libanais. Au moins 40 pays, dont 34 contributeurs de la force des Nations Unies au Liban, ont apporté leur soutien complet à cette force et demandé à protéger les casques bleus. La force des Nations Unies au Liban, qui de son côté refuse de quitter la zone frontalière, la force intérimaire des Nations Unies déployée dans le sud du pays a mis en garde contre un conflit régional qui serait catastrophique. On écoute son porte-parole.
Nous continuons à penser qu'il existe un espace de négociation. Il y a encore de la place pour une solution. Le canal de communication reste donc ouvert avec les parties. Nous discutons régulièrement avec les deux parties pour essayer de désamorcer la situation, mais aussi pour les avertir qu'attaquer les casques bleus constitue non seulement une violation de la résolution 1701, mais aussi une grave violation du droit humanitaire international. Le conflit actuel entre le Hezbollah et Israël n'est pas seulement un conflit entre les deux pays. Il se transforme très rapidement en un conflit régional aux conséquences catastrophiques pour tous. La responsabilité incombe donc à tout le monde. Elle concerne évidemment les deux parties, mais aussi la communauté internationale.
Le président français Emmanuel Macron a de son côté exhorté le Hezbollah libanais à cesser immédiatement les tirs sur Israël. Le groupe terroriste a annoncé avoir tiré plus de 300 projectiles sur une base militaire de l'État hébreu et des villages israéliens le jour de Yom Kippour, le jour le plus sacré du judaïsme.
À Radio Rythme Bleu, il est 12h19.
L'actualité nationale, des gendarmes pris pour cible lors d'une manifestation non autorisée dans la région de Bordeaux. Des militants se mobilisaient contre un projet de construction d'une ligne de TGV. Les tensions sont très vite apparues. Des éléments radicaux, vêtus de noir et cagoulés, se sont mêlés à la marche et ont attaqué une voiture dans laquelle se trouvaient quatre gendarmes. Le véhicule des forces de l'ordre a été détruit. Un hélicoptère a également été visé par un tir de mortier d'artifice. Le général de gendarmerie Fombonne explique que dans ce type d'événement, il faut des moyens pour faciliter l'identification des auteurs de ces faits.
En termes de droit administratif, en termes de sécurité publique, en termes d'autorité des préfets, ce sont des groupes qui sont connus en tant que groupes autorisés, pas autorisés. Mais en matière pénale, c'est l'individualisation de la peine. C'est-à-dire, oui, j'étais dans cette manifestation, je suis effectivement susceptible éventuellement d'être poursuivi pour participation à une manifestation illégale, mais c'est pas moi sur la photo, c'est pas moi sur la vidéo, j'étais pas là, j'étais déjà parti.
Selon les forces de l'ordre, au moins une vingtaine d'individus fichés S était présent dans cette manifestation qui a réuni près de 800 personnes. En Martinique, la situation reste tendue. Le quotidien des habitants de l'île de l'arc caribéen est encore marqué par la peur, avec des pillages, des violences, des bandes organisées qui érigent des barricades. Les gangs orchestrent ces exactions avec des voyous circulant à moto, selon les mots des témoins à Fort-de-France. 32 interpellations ont été effectuées, 12 blessés légers sont à relever parmi les forces de l'ordre. Quelques 150 véhicules ont été brûlés, 14 locaux commerciaux ont également été incendiés ces derniers jours. Un contexte de violence bien loin des premières manifestations contre la vie chère de septembre dernier. Si la protestation a dégénéré et échappé au contrôle des syndicats et des collectifs, les négociations sur le sujet continuent pour un alignement des prix en Martinique avec la métropole. Le point avec Florin au Sud Europe 1.
D'abord, la différence de prix sur l'alimentaire entre la métropole et l'Hexagone. L'association de citoyens à l'origine du mouvement exige une limite légale de cet écart de prix entre 10 et 15%. À l'heure actuelle, le taux est de 40% en moyenne. Mais surtout, les militants veulent appliquer une baisse des prix entre la Martinique et la métropole sur tous les produits alimentaires, là où la grande distribution propose 54 familles de produits, soit environ 4000 références. Pour le leader du mouvement citoyen, Rodrigue Petitot, la balle est désormais dans le camp du gouvernement.
Je pense qu'il va falloir que les ministres se déplacent, même si nos élus veulent faire leur maximum, même si peut-être même le préfet a essayé de faire son maximum. Il y a des engagements qui ne peuvent être pris que par ces personnes eux-mêmes. Donc je pense qu'il va falloir qu'on en arrive là.
En attendant une éventuelle venue du ministre, le dialogue se poursuit. Une prochaine rencontre est déjà prévue mardi.
Florin Aussu, correspondant d'Europe 1 en Martinique. Midi passé de 22 minutes, une dernière page de publicité avant de voir tout le sport.
À toutes les Calédoniennes, la 19e édition de la Nouméa NOPT pour la lutte contre le cancer du sein est de retour le 24 novembre prochain en baie de Sainte-Marie. Tous les bénéfices générés serviront à soutenir la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie. Inscrivez-vous sur www.inlife.nc. Plus d'informations sur la page Facebook la Nouméa NOPT.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Week-end avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une du sport en Calédonie, du volley, avec ce week-end un tournoi qui est organisé à Païta, Léo Fichot.
Oui, un tournoi interclub mis en place par le comité Province Sud de volleyball. C'est le deuxième après celui organisé à la fin du mois de septembre. Depuis hier matin, 18 équipes défilent sur le parquet de la salle Omnisport de Païta, 12 équipes hommes et 6 équipes femmes. On écoute Evelina Menango, elle est chargée de communication au comité Province Sud de volleyball.
L'idée après ces événements, c'était vraiment de se retrouver. Bah, sur un calendrier glissant, et c'était compliqué quand même de mettre en place un championnat complet. Alors on est parti sur des petits tournois, tout dépend des salles, des mairies aussi. L'avantage avec ce tournoi, c'est que c'est ouvert aux loisirs, aux élites, aux premières divisions et aux surclassés. Du coup, les cadets ils peuvent aussi participer.
Et le plaisir est partagé par tous les joueurs, toutes les joueuses, des cadets aux seniors.
Ça nous fait du bien de se retrouver, d'échanger autour d'un ballon, des valeurs du sport et du volleyball. Sur une formule dégradée surtout, parce que ce n'est pas un championnat régulier, c'est des formules un peu plus décontractées. Ça fait beaucoup de bien aux jeunes surtout, parce que c'est l'occasion de faire pousser les jeunes à jouer avec les seniors. Surtout.
Énormément, ça fait du bien de reprendre un peu le volley, surtout avec tout ce qui s'est passé, avec les émeutes. Ça fait du bien de revoir tous les clubs, partager l'envie de jouer au volley, de taper, réceptionner, défendre. Ça fait du bien. Mais ça fait du bien de jouer contre les petits, parce qu'on voit que plus les grands montent, mais les petites, ils évoluent aussi. Hein.
Et puis, ici, c'est un endroit où on fait abstraction de tout le reste, tout ce qui est politique et compagnie. Donc, on kiffe, on fait que kiffer le moment. Quoi.
Le tournoi interclub organisé donc par le comité volleyball Province Sud, ça se passe jusqu'à 17h ce soir à la salle Omnisport de Païta.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Le sport sur la scène nationale et internationale en rugby. Le Stade toulousain avec un Antoine Dupont XXL ont largement dominé Clermont ce matin, Léo.
Une victoire 48-14 du Stade toulousain grâce notamment à un essai du Calédonien Peato Maobaka, mais surtout avec un Antoine Dupont des grands jours, champion olympique de rugby à 7 cet été. On le rappelle, le Toulousain était remplaçant pour son retour. Il est entré en jeu juste après la pause et a marqué 3 essais en seulement 9 minutes. Le premier sur l'un de ses tout premiers ballons à la 49e, puis à la 55e minute et enfin à la 58e. On écoute l'international tricolore.
J'ai bien profité des vacances, mais à chaque fois que je revenais à l'entraînement un peu avec les copains, ça donnait envie d'être sur le terrain le week-end. Je savais que j'aurais une bonne période pour récupérer, qu'après je pourrais m'y remettre pleinement. Donc c'est pour ça que je suis arrivé avec de l'enthousiasme lundi à l'entraînement, et de commencer par un match comme ça où il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup de mouvement, beaucoup de contenu aussi de notre part, ça fait plaisir.
Antoine Dupont et le Stade toulousain qui n'ont donc fait qu'une seule petite bouchée de Clermont, 48-14. Large victoire aussi cette nuit de l'Aviron bayonnais sur le Stade Rochelet. Surprise, hein, 37-7. L'UBB s'impose 66-12 sur l'USAP. Montpellier qui s'impose sur le fil face au promu Vannes, 26-24. Victoire de la section paloise contre le Castres Olympique, 33-26. On le rappelle, hier, le Racing 92 en ouverture a battu Toulon, 22-6. Et enfin, demain, le Loup recevra le Stade français.
Du rugby toujours, mais au féminin, avec la défaite de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande ce matin, 39-14, dans le cadre de la dernière journée du Women 15 au Canada. Les Bleus terminent la compétition avec une seule victoire en 3 rencontres. Et puis un petit mot de tennis, pas de surprise au Masters 1000 de Shanghai. Novak Djokovic et Yannick Sinner se sont qualifiés pour la finale. L'Italien numéro 1 mondial s'est imposé en 2-7 face à Thomas Maratch, 6-4-7-5. Novak Djokovic a lui battu l'Américain Taylor Fritz en 2-7 également, 6-4-7-6. Finale des Masters 1000 de Shanghai ce soir à partir de 19h30, heure de Nouméa. Midi passé de 27 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain point sur l'actualité à 13h en vous souhaitant de passer un excellent dimanche après-midi, toujours à l'écoute de nos programmes.